Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Channel Random. Alain Mattei pour vous accompagner pendant cette émission. À mes côtés, mon fidèle camarade Raphaël Masmejean est toujours là. Bonjour Raphaël.
Salut Alain, salut à tous.
Bon Raphaël, on va parler un petit peu actualité, une fois n'est pas coutume, parce qu'on avait fait voyage dans le temps, on avait fait histoire, enfin on a fait des trucs qui n'étaient pas du tout d'actualité. On va pas se mentir, on a eu un peu de mal à se décider sur le thème de ce numéro 19. C'est une émission qui a été un peu maudite. Parce qu'on a, on a trouvé un thème, finalement j'ai mis un veto, après j'ai proposé un deuxième thème, c'était Raphaël qui était moins chaud, finalement on est parti sur l'actualité. L'actualité qui a changé très très vite.
Ah oui, oui, encore plus vite que ce qu'on pensait. Ouais.
Voilà, on est quand même parti sur un thème très mouvant, puisque le monde du foot s'est mis à exploser, et on s'est dit que ce serait très marrant de parler des histoires de ligue ouverte, ligue fermée, et donc de la Super League. Alors au moment où on enregistre, elle est déjà morte.
C'est ça. Voilà. C'est marrant parce que quand même, on s'est dit qu'on allait en parler au moment où elle sortait et que le monde du foot commençait à trembler. On s'est dit en aparté, bon, a priori, ça devrait tenir jusqu'à la fin de semaine, au moins une semaine. Et non, 48 heures après, c'était déjà fini.
C'est ça. Donc, Super League, pas Super League, on va essayer de démêler les arguments, les éléments. Il ne s'agit pas de rentrer dans l'art des clubs en question ou de faire une analyse foot très précise. On n'est pas là pour ça. Il y a d'autres émissions qui feront ça. Nous, on est d'accord, Raphaël, on va plutôt être sur l'aspect global, en fait, ligue ouverte contre ligue fermée, quoi.
Oui, oui, totalement, oui.
Donc voilà, c'est un peu l'idée. Encore une fois, le projet est mort, ou en tout cas, alors au moment où on se parle, pour être très précis, Raphaël, tu me disais juste avant l'émission, il reste le Barça et le Real.
Ouais, en théorie, en sachant que du coup, du micmac que j'ai compris, c'est que quand même le Barça, de toute manière, devait faire valider la décision apparemment par ses socios, puisqu'une partie du club est détenue par ses supporters. Donc en plus, t'en as un qui est un des deux restants, n'est peut-être même pas vraiment dedans. Donc bon.
Ça va être vraiment, vraiment pas mal. Donc oui, peut-être que le Real va jouer tout seul dans cette Super League.
Alors, après, du coup, récupérer 5 milliards de JP Morgan juste pour toi, c'est, en termes de plus-value financière, c'est un bon pari.
C'est pas mal. Bon, après, s'il n'y a pas d'adversaire, ça devient problématique pour le spectacle, mais pourquoi pas. En tout cas, on va parler un petit peu de tout ça, évidemment. On peut rappeler dans l'intro, Raphaël, notre pedigree foot. Ou alors non, tu veux peut-être pas dire de quitter supporter, sinon on va t'accuser de teinter.
Je l'assume totalement, supporter de la Juventus, du coup club moteur, ou en tout cas président moteur dans la construction de la Super League et dans cette idée, donc je l'assume, et d'ailleurs on y reviendra, mais club qui a annoncé quitter la Super League mais pas renoncer à l'idée.
C'est ça, voilà, il y a ça aussi. C'est pour ça qu'on en parle, parce que, encore une fois, l'idée de fond est quand même là depuis un bon moment, donc c'est pas inutile d'en parler, parce que éventuellement ça pourrait revenir. On va donc partir là-dessus tout de suite. Dollar, dollar bill, Raphaël, évidemment. Alors, ça valait le coup de se faire striker éventuellement,
moi je dis,
pour passer le Wu-Tang de temps en temps. On le dit donc, on va parler un petit peu des Super Ligues, des ligues fermées, des ligues ouvertes. On essaye de résumer quand même ce qui s'est passé, Raphaël, le bordel ambiant, parce que je vais dire, au moment où j'ai préparé mes notes, je me suis dit bon courage à lui pour expliquer ce qui s'est passé avec la formation, mais là en plus t'as la déformation dans la foulée. Bon, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire déjà?
Donc dimanche soir, de mémoire c'est même dimanche soir, en plus en fin de soirée du vers
minuit,
du
20, pile, minuit, je crois les tweets, ouais.
12 clubs européens ont décidé d'annoncer le lancement d'une Super League, c'est le nom donné à cette ligue, donc 12 clubs européens qui regroupaient 3 Espagnols, donc les 2 clubs de Madrid, Barcelone, 3 Italiens, les 2 de Milan, la Juve, et 6 Anglais, Arsenal, Tottenham, les 2 Manchester, Liverpool
et Chelsea,
voilà, pardon. Voilà, de lancer donc cette Super League à 12, qui était une nouvelle compétition qui devait, de leur point de vue, remplacer la Ligue des Champions à laquelle ces clubs étaient un peu habitués, on va dire, même si on y reviendra, c'est peut-être un des nœuds du problème. Et donc, ça devait être une nouvelle compétition pour 20 clubs, dont 12 à 15 de ces clubs sont des membres fondateurs à vie, en fait, reviennent tous les ans jouer cette compétition. Les clubs devaient pouvoir s'affronter toute la saison entre eux, et puis parce que l'argument principal, en fait, c'était d'avoir plus de matchs entre grands clubs, que ces grands clubs, par leur historicité, devaient en fait revenir en permanence dans la plus grande compétition européenne. Donc voilà, c'était un peu le projet de base, la grande structure, on va dire, de cette compétition, et avec 5 places, donc en gros ça devait se jouer à 20, et avec 5 places qui tous les ans sont renouvelées pour des nouveaux clubs. A priori, le critère, c'était au mérite, sans vraiment savoir encore comment ils définissaient le mérite, mais 5 nouveaux clubs devaient avoir la chance de participer tous les ans à cette nouvelle compétition.
Oui, alors au mérite, enfin, il y a beaucoup de choses qui étaient floues, hein, de toute façon.
Oui.
Mais, donc, 15 plus 5 qui tournaient.
Voilà. C'est ça.
C'était grosso modo l'idée, ligue fermée. La question qui se pose d'abord, alors j'ai rappelé ton pédigré foot tout à l'heure, je vais peut-être rappeler le mien pour que les gens sachent d'où je parle. Moi, je m'en fous. Grosso modo, pour faire simple, non, mais c'est à dire que j'ai pas d'attache particulière à un club, je regarde pas le foot, je regarde les compétitions nationales. Si vous voulez j'allais au Parc des Princes quand j'étais gamin, donc on peut dire que j'ai possédé des maillots du PSG, donc on pourrait dire ça. Après, je regarde pas particulièrement les matchs, donc je serais content pour le PSG s'il la gagne, mais je regarde pas particulièrement, ou je regarderai si c'est gratuit. J'ai regardé la finale contre le Bayern, par exemple. Et on reparlera de ça, d'ailleurs,
ouais,
si c'est gratuit. Donc voilà, donc je regarde pas le foot. Et encore une fois, s'ils perdent, je m'en fiche. S'ils gagnent, tant mieux pour eux. Donc, question très pragmatique. Est-ce que la Ligue des Champions était ouverte déjà à la base? Parce que, en fouillant un peu, je regardais la formule de cette année. Il y a 79 équipes de 54 pays au départ. Donc les fameux 54 pays d'Europe, évidemment.
Non, il faut préciser, donc c'est les 54 fédérations nationales enregistrées auprès de l'UEFA, reconnues par l'UEFA. Donc du coup, Gibraltar, une fédération, Malte, une fédération.
Alors, on a donc 79 équipes de 54 pays au départ. Dans les phases de poule, déjà, il n'y a plus que 14 nations.
Pour 32 équipes.
Pour 32 équipes, voilà. Donc on a pas mal réduit. En fait, notre confrère Laurent Vergne d'Eurosport le faisait remarquer sur Twitter notamment, le Celtic et l'Étoile Rouge de Belgrade devaient passer 4 tours de barrage pour arriver en phase de poule, par exemple. Il y a un rôle du coefficient UEFA qui fait qu'il y a plus d'équipes pour certains pays que d'autres, c'est-à-dire que l'Espagne, l'Angleterre,
l'Italie et l'Allemagne ont 4 équipes en poule.
Voilà, ont 4 équipes. Donc déjà, moi de l'extérieur, encore une fois, pour... qui n'en est pas grand-chose à faire. Est-ce que quand on disait « oui, c'est un drame, c'est la trahison du foot », parce que là, j'ai entendu tous les mots les plus forts de la Terre pendant 2 jours, est-ce qu'ils n'avaient pas déjà trahi l'esprit de la Coupe d'Europe des clubs champions depuis un moment, quand même?
Si. Enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel. L'esprit en tant que tel avait été déjà trahi à partir de la réforme de la Champions League. Donc, de mémoire, elle est autour de 93. C'est le Milan qui est, je crois, le dernier vainqueur un peu avant la réforme, une des premières réformes avant celle de 2007, qui englobe encore plus de pays, enfin de places pour les pays vainqueurs, on va dire, les gros pays. L'âme avait été un peu trahie, puisqu'on avait des clubs champions qui n'arrivaient plus à accéder à la Champions League parce qu'ils se battaient entre eux sur des phases de barrage et s'auto-éliminaient. Donc à partir de là, forcément, c'était déjà une balle dans le pied que l'UEFA avait tirée à cette compétition. Après, en fait, le truc, c'est qu'est-ce qu'on entend aussi par ouverture de la Champions League? Enfin, est-ce que c'était une compétition ouverte ou pas? Objectivement, effectivement, elle est ouverte dans le sens où t'en parler, le Celtic, en se qualifiant, a la possibilité, en étant champion, de se qualifier pour la Champions League. Et techniquement, il a la possibilité de l'emporter. On ne peut pas dire le contraire. Il peut, techniquement, cette possibilité-là est ouverte. Donc, en ce sens-là, elle restait ouverte. Après, quand on regarde dans les faits, quand on analyse plus depuis plusieurs années les clubs qui reviennent en huitième de finale, en quart de finale, en demi-finale, les clubs qualifiés, elle apparaissait quand même plutôt fermée parce qu'à part une ou deux épopées à gauche, à droite, on se retrouve globalement avec les mêmes clubs depuis plusieurs années qui atteignent les mêmes stades et donc on a une compétition de plus en plus fermée en fait.
Mais en fait, moi, c'est là où j'ai... Alors, c'est pas que j'ai du mal, mais je comprends que le symbole choque. Mais en fait, quand ils disent 15 places fixes, 5 places ouvertes, ça fait 25% d'invités qui tournent. Est-ce qu'au final, il y a plus ou moins de 25% de clubs qui tournent en Ligue des Champions actuellement ?
Bonne question. Je suis pas sûr qu'on soit dans ces proportions hein, de clubs tournants. Après, là où ce qui peut aussi inquiéter, c'est que la Super League dit club tournant, mais sans te préciser que les 5 sont à chaque fois nouveaux. C'est 5 places
ouvertes. C'est ça, ça peut être les mêmes.
Ça peut être les mêmes. Ils peuvent se dire que dans ces 5 nouveaux, il y a un club très fort allemand, un club très fort italien. Et de toute manière, il y a toujours une place pour un italien, pour un allemand en plus, tu vois. Donc, c'est vrai que le côté 25% ouvert n'était pas tout à fait franc et transparent.
Parce que sur les vainqueurs, en tout cas, il n'y a pas 25% de turnover.
Non.
Alors, c'est parce que si on prend ceux qui allaient dans la Super League, donc les 12 que tu as nommés tout à l'heure, moi, je regarde les vainqueurs depuis 2000. On va prendre depuis 2000, comme ça, ce sera. En fait, le seul vainqueur depuis 2000 de la Ligue des Champions qui ne fait pas partie de ceux qui allaient dans la Super League, c'est le Bayern de Munich, qui gagne en 2020, en 2013 et en 2001.
T'as Porto aussi en 2004, mais...
Porto était pas... Ah oui, pardon, Porto n'était pas dans les originaux.
Était pas dedans. Mais bon,
c'est parce que j'ai vu le nom revenir dans les rumeurs à un moment que je m'embrouille.
Puis ça, oui, ça veut pas dire qu'ils auraient pas fini comme le Bayern. Hein, ça veut pas dire que ces deux clubs n'allaient pas finir par accéder à la Super League.
J'ai vraiment pris que les fondateurs. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que donc sur les 20 dernières éditions, t'as 4 vainqueurs qui sont pas des membres fondateurs de la Super League.
Deux clubs même. Deux clubs pour 4 finales remportées.
Et du coup, même si tu prends la fourchette haute, donc qui est de dire 4 vainqueurs, ça veut dire que c'est moins de 25%. Si on prend l'histoire des 25% qui tombent.
Ouais, non, mais c'est sûr. Hein, de toute manière, donc, comme on disait, cette histoire de Ligue des Champions ouverte, et c'est un peu le... C'est aussi pour ça que je pense qu'il y a eu autant d'échanges et de débats autour de cette réforme et de cette Super League. C'est quoi ? Les gens se rendent bien compte aussi, une bonne partie des gens se rendent compte que oui, cette Super League, elle change, elle casse, on va dire, la tradition de la Champions League, parce que effectivement, tu peux en théorie toujours remporter cette coupe, sauf qu'en vrai, cette coupe-là, elle a déjà plus grand chose à voir avec celle des années 80, des années 90. Qui d'ailleurs, au passage, quoi qu'on en dise, reste un peu le suspense et l'ouverture de la Champions League, reste aussi un peu un mythe dans le sport, c'est ce que. Le président de la Juve, Agnelli, a défendu quand les clubs de Serie A se sont rendus. Ils se sont réunis lundi. Lundi, les clubs de Serie A se sont réunis. La Juve et les 2000 ans ont été invités. Agnelli a sorti au patron de Serie A. Vous êtes bien gentil, mais la Serie A est ouverte et sur les 100 derniers titres, on en a remporté 80 à nous trois. Donc merci, mais.
Mais alors, c'est ça. Moi, je trouve que tu amènes un truc qui est important et qui, pour moi, encore une fois, vu de l'extérieur, est l'essentiel. De ce qu'on a du psychodrame qui a été vécu, c'est que c'est un symbole en fait, c'est juste un symbole qui tombe, mais ça a l'air d'être juste la concrétisation d'un truc qui est en marche depuis des années et d'une tendance qui est en marche depuis des années en fait.
C'est comme tu dis, alors après moi je comprends vraiment les gens qui sont accrochés à ce symbole de l'équité dans le sport et de dire que toute équipe qui joue le championnat national a une chance de pouvoir se qualifier en Champions League et a une chance de pouvoir là. Et ça, je comprends que c'est un symbole fort dans le sport et qu'il y en a qui veulent pas le céder et qui ne veulent pas céder à ça. Enfin, en tout cas, dans un sport qui a cette tradition-là d'ouverture et de faut gagner le championnat pour se qualifier à une Coupe d'Europe et avoir une chance de l'emporter. Les ligues américaines sont fermées depuis le début, donc elles sont dans un autre prisme culturel. Donc je pense que c'est difficile de les comparer à ce niveau-là. Mais donc je comprends ceux qui tiennent ce symbole, mais comme tu dis, on a aussi le sentiment que cette ligue, elle est un peu dans le sens de l'histoire. Alors après, est-ce qu'il faut toujours aller dans le sens de l'histoire, j'en sais rien, une autre question. Mais effectivement, depuis le renforcement des clubs, depuis l'arrêt Bosman, encore plus de place pour les mêmes pays en Champions League, et donc mécaniquement, des inégalités entre les clubs d'Europe, des 4-5 plus gros championnats qui se sont renforcés et ceux qui se sont affaiblis. Aujourd'hui, le 10e de première ligue anglaise qui a autant de budget que le premier en Croatie ou dans d'autres pays. Enfin, cette inégalité, elle a fait que se renforcer. Et t'as l'impression que la Super League venait un peu concrétiser ça, mais de manière presque transparente, en fait, et assumée.
Peut-être que je m'exprime mal et que je dis c'est le symbole et tout ça. Peut-être que c'est en fait la goutte d'eau pour les supporters. Parce que moi, je me disais, en fait, à première vue, je me disais, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas vu venir ou pourquoi. Parce que on prend des exemples très concrets. Hein. Moi, je regardais un petit peu, mais moi, le Barça, quand j'étais gamin, avait un maillot immaculé. Il fallait pas qu'ils aient de pub, etc. Bon, maintenant, il y a un avionneur dessus. La Juventus et l'Inter, on l'a vu récemment, ont refait leur logo carrément. Ils ont viré leur blason pour mieux vendre des maillots à l'international.
Pour être des marques, des logos de marques.
Voilà. Le PSG a rétréci l'inscription Saint-Germain sur son logo pour mettre Paris en plus gros, parce que ça vend mieux. Évidemment, je comprends qu'à l'international, ils disent, bah oui, le mec qui va acheter son maillot, je sais pas où, il connaît pas Saint-Germain-en-Laye, donc il préfère voir Paris. Ouais, mais bon, c'est quand même, c'est là que tu t'entraînes tous les jours, quoi. Et puis c'est historiquement une des villes, quoi. Mais donc, pour moi, encore une fois, vu de l'extérieur qui suit pas, ça fait longtemps que c'est un business, et on sait que les joueurs jouent quand même moyennement par philanthropie, sans parler du fait qu'on a quand même donné une Coupe du Monde à un pays qui avait même pas un stade prêt et qui va faire tout jouer en hiver, etc. Enfin, ça fait quand même quelques années, quoi. Donc c'est vrai que je m'exprime peut-être mal quand je dis c'est un symbole, etc. C'est peut-être en fait la goutte d'eau, quoi. C'est-à-dire que les supporters, ils supportent tout ça, et là ils en ont dit on en a marre.
Mais c'est possible, hein, que ce soit la goutte d'eau, parce que comme tu l'as dit, ces dernières années, les scandales autour du foot n'ont fait que s'accumuler. L'affaire Platini, je veux dire, ça n'a fait que s'accumuler. On pourra en plus goutte d'eau, et on pourra en parler après en termes de capacité et de possibilité que tu as de voir les matchs, que ce soit au stade ou à la télé, en termes de prix, d'abonnement, tout ça, qui à mon avis est aussi, là c'est pas une goutte d'eau, c'est un robinet qui n'a eu cesse de remplir le verre de l'énervement. Et donc, comme tu dis, je pense qu'il y a un côté goutte d'eau. Goutte d'eau parce que pour toute une partie des supporters, il y avait l'idée que du coup, bah, ils auraient même plus la chance potentiellement de voir leur club se qualifier dans la compétition phare, alors que ils ont une équipe et des gens qui se battent pour ça toute la saison, et que du coup tu leur enlèves ce truc là après, je pense qu'effectivement, si de manière honnête chaque supporter se rendra bien compte que c'était quelque chose, peut-être pas de prévisible, mais qu'on sentait un peu malgré tout arriver, et beaucoup. Et le problème, c'est qu'il aurait fallu presque se plaindre dès le début, quand on a commencé à expliquer que le 4e ou le 3e du championnat espagnol pouvait plus facilement faire la Ligue des Champions que le premier d'Écosse ou le premier de Croatie. Et c'était peut-être là où il aurait fallu. Après, d'un point de vue purement sportif, et c'est ce que certains défendent, et notamment les présidents qui ont voulu mettre en place la Super League, et sur lequel aussi il est parfois. Moi, je peux entendre une partie de leur raisonnement, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que le deuxième d'Angleterre ou le troisième d'Angleterre est plus fort sur le terrain, en général, à quelques exceptions près, mais plus fort que certains champions de plein pays, et qu'en termes de niveau de compétition, où derrière on est dans un business qu'il faut vendre des matchs, qu'il faut vendre de l'attractivité, c'est difficilement contestable que le champion de Croatie va vendre plus que le deuxième ou le troisième d'Angleterre et d'Espagne.
Après, il y a toujours le côté cercle vicieux aussi, c'est-à-dire que bah, si, ils sont meilleurs, mais du coup ils prennent plus de pognon,
oui, du coup ils continuent d'être meilleurs,
hein, et ainsi de suite. Ouais. Donc là, ça n'arrête pas. Mais après, alors si on se place sportivement, très froidement, si je me mets de l'extérieur, alors. Là, dans le premier projet, si je ne dis pas de bêtises, eux, ils voulaient rester dans leur championnat.
Ouais, eux, ils comptaient rester dans le championnat.
Donc, en fait, ce qu'ils voulaient vraiment, c'était créer une sorte de nouvelle Ligue des Champions, mais fonctionner toujours plus ou moins de la même manière.
C'est ça.
Est-ce que, si on se met donc, du point de vue sportif, on ne se dit pas, ça peut quand même être pas mal, une compétition où tu as tous les meilleurs qui ne font que jouer les meilleurs et qui se tirent la bourre. Là, pour le coup, on a notre prisme où on connaît la NFL, la NBA, etc. Alors après, je ne sais pas s'ils auraient mis des règles de plafond salarial, égalitaire, etc., comme font les Américains, parce qu'il y a aussi ça quand même dans le sport US, en dehors du baseball. Mais sur le papier, pour le fan lambda, c'est que, encore une fois, le fan lambda, je pense qu'on peut tout de suite exclure le fan hardcore qui aime les traditions du foot. Voilà, évidemment, eux, il faut les respecter dans ce qu'ils aiment, et c'est compréhensif qu'ils soient plus, mais ils ne sont pas le public en fait.
Non, je pense qu'ils n'étaient pas le public visé par cette nouvelle compétition, qui était le public des marchés émergents, asiatiques, africains, Amérique du Nord, sur ce truc-là, et qui sont forcément de prime abord plus intéressé par des grosses compétitions en termes de droits télé. Enfin, alors on ne saura jamais le fond du dossier, mais si JP Morgan, la banque, était prête à mettre 5 milliards d'entrées sans même avoir de certitude sur tous les participants, c'est que il y a quand même. Je suppose que ces mecs-là avaient quand même fait quelques études de marché sur ce que ça pouvait donner en termes de diffusion, de tout ça. Après, du point de vue sportif. Moi, là où je contesterais un peu leur idée malgré tout, c'est que actuellement dans les 12 clubs qu'ils ont choisis fondateurs, c'est pas les 12 meilleurs clubs européens en vrai, dans les faits. Et donc, en termes de niveau, t'es même pas sûr d'avoir les affiches les plus intéressantes que ce que la Champions League peut te donner à l'heure actuelle. Et c'est un peu ça. Après, je pense que dans leur état d'esprit, c'est qu'en créant ça, les 12 clubs européens allaient très mécaniquement et rapidement redevenir les 12 meilleures équipes d'Europe grâce à cet argent en plus, en fait. Et je pense que, par exemple, les deux de Milan, tu leur files 300 millions de plus l'an prochain juste en entrant. Leurs effectifs sont renforcés très rapidement et ils redeviennent très vite des top 10 clubs européens parce que ça se nourrit. Donc, à long terme, tu aurais mécaniquement eu la compétition la plus forte.
Ouais.
Mais actuellement, sincèrement, c'est pas en rencontrant Arsenal que tu as plus de niveau sur le terrain, tu vois.
Question de profane, du coup, il manquait qui pour avoir la meilleure? Alors, Bayern, Dortmund et Paris, mais qui étaient plus ou moins dragués fortement, parce que Paris a quand même discuté dans le projet à la base avant de partir.
Bien sûr, bah, sincèrement, actuellement, ta Super League, elle a plus de niveau avec Porto qu'avec Arsenal, par exemple. Mmh. Tu vois, c'est...
Oui, j'ai vu que beaucoup de gens se moquaient d'Arsenal, en effet.
Ouais, mais parce que ils sont 9e de Première Ligue, ça fait des années qu'ils ne sont pas qualifiés. Enfin, et même le Milan AC galère depuis des années à retrouver le haut niveau en Italie. Là, cette année, ils sont 2e du championnat, mais c'est vraiment... C'est parce qu'ils commencent enfin à revoir le bout du tunnel, mais ça serait pas... Enfin, en termes de niveau sur le terrain, c'est pareil, il y a un Ajax qu'on a vu aux Pays-Bas il y a 2 ans faire une épopée, aller en demi-finale. Je suis pas persuadé qu'à l'heure actuelle ce soit moins bon que le Milan AC ou.
Mais on est d'accord quand même que si on se place froidement, comme tu le disais, ils vont mécaniquement quand même prendre l'argent, être meilleurs éventuellement. Si on se place froidement, ça paraît quand même intéressant parce qu'on a eu la discussion très longue sur le Slack de Touchdown Actu où on me disait oui, mais l'Atalanta Bergame va en quart, l'Ajax va en demi, etc. Mais c'est pas gagné pour moi. Donc si on se contente de dire de temps en temps il y a une équipe qui va en demi ou en quart pour que si l'intérêt sportif est énorme parce que de temps en temps il y a un petit qui va éventuellement en demi.
Oui, oui.
Je suis désolé, hein, mais je sais pas, il y a plus un vrai suspense si tu vois du Barça, du Manchester, du machin qui se tire la bourre tous les dimanches, enfin en semaine, parce qu'ils voulaient jouer en semaine.
Ouais, non, mais c'est sûr que je pense qu'aussi l'intérêt sportif aurait pu être renforcé par rapport à la Ligue des Champions. Après, la question c'est est-ce que dans ce format-là, il était forcément renforcé, tu vois, parce que c'était ces 12 clubs-là. Et est-ce qu'en n'ayant pas le même système, mais avec moins d'équipes en Champions League et en réduisant le nombre d'équipes, mais du coup moins d'équipes qui se partagent plus de gains, est-ce que mécaniquement, tu peux pas aussi créer d'autres grands clubs en Europe? Enfin, après, de toute manière, il faut que ça se répercute sur les championnats nationaux, que les autres clubs aient plus de moyens. Et ça, c'est aussi un des enjeux, parce qu'à partir du moment où l'UEFA voulait exclure ces équipes-là des championnats nationaux, ça devenait un bordel sans nom.
Oui, mais alors en fait c'était ça pour on va pas faire du légal dans tous les sens, mais moi j'avais l'impression que légalement, alors évidemment ils ont dû consulter des juristes avant de se lancer, mais ils avaient, la FIFA et l'UEFA ont l'air de réclamer une sorte de monopole, mais il y a des lois contre ça, donc je vois pas pourquoi les autres auraient pas eu le droit d'organiser leur compétition comme ils voulaient, et du coup l'UEFA et la FIFA se seraient tirés une balle dans le pied s'ils avaient empêché ces clubs riches-là de filer du pognon par les transferts aux petits clubs.
Et de participer aux championnats nationaux, demain le championnat italien, si t'enlèves la Juve et les 2000 ans, pas bien certain que les droits de diffusion du championnat italien se vendent très très bien à l'étranger. Hein, donc
ma question c'est ça, pourquoi ils pourraient pas coexister d'ailleurs? Tu vois, je lisais partout, c'est un psychodrame, le monde du football est rompu, la terre s'ouvre, etc. etc. Pourquoi ils ne pourraient pas coexister? En fait, pour moi, il y a un truc, encore une fois, qui me frappe, c'est que la Ligue des Champions, elle peut très bien vivre, en fait, sans ces gens-là, parce qu'il y aura toujours de l'émotion, il y aura toujours des matchs, il y aura toujours des gens qui la gagneront.
Elle va juste perdre ses plus gros acteurs, et c'est que l'UEFA elle-même a peur de faire cette compétition sans eux, en fait. Donc,
elle a peur de perdre de l'argent.
Oui.
Ah bah, c'est ça, en fait.
Oui, clairement.
Parce que ce sera le même football, mais avec moins d'argent.
Ouais, ça sera le même football avec moins d'argent, parce que quoi qu'on en dise, les gens regarderont moins devant la télé. J'aime bien le côté foot populaire, même si d'ailleurs je sais pas très bien ce qu'est le foot populaire en tant que tel, ce qu'on entend par là, mais objectivement, je suis pas bien persuadé qu'il y ait tant de gens que ça qui veulent. En tout cas, le fan moyen, je suis pas bien persuadé qu'il passe ses mercredis soirs à regarder le champion roumain face au champion russe, face au. Et même s'il est plein de bon sens et de bons sentiments,
Après, je taquine le fan de foot de ma timeline Twitter, mais le fan de foot de ma timeline Twitter, des fois, il se plaint un peu beaucoup parce que PSG Brest, c'est pas bien, la Ligue 1, c'est nul, patati patata. Et après, quand on leur dit on crée une Super League avec plein de gens forts qui se rencontrent, ils disent non, c'est pas bien, on veut aussi des matchs populaires. Donc, je sais pas. Moi, quand je regarde ma timeline, les gens, ils sont jamais contents sur le foot.
C'est la passion du foot, ça divise. Après, c'est aussi en vrai, derrière tout ça, c'est des guerres de pouvoir entre fédérations nationales, entre l'UEFA, entre les clubs. Entre plein. Moi c'est pour ça que je tape pas tant sur les clubs que ça, parce que je trouve qu'il y a un moment où les clubs ont aussi dans cette volonté d'avoir créé la Super League. Alors ce qui est dommage, c'est que du coup c'est les plus gros clubs qui veulent encore plus s'enrichir, mais la démarche de fond qui est de dire que les clubs doivent récupérer plus d'argent sur ce qu'ils produisent, parce que c'est eux qui prennent les risques financiers, parce que c'est eux qui engagent leur argent, tout ça, et que l'UEFA écoulera pas,
Bah non.
Et que l'UEFA sans les clubs n'est rien non plus. Donc à un moment, je peux comprendre que les clubs aient envie de dire à l'UEFA « Salut, nous, on veut récupérer plus d'argent que ce que tu nous donnes, parce que bien que tu sois une association à but non lucratif, tu n'as pas l'air d'avoir de problème de trésorerie, puisque tu as l'air de pouvoir allonger comme ça de l'argent sans problème. » Enfin, depuis ce matin, on entend des rumeurs comme quoi l'UEFA a trouvé des millions et des millions supplémentaires à donner aux clubs... aux clubs anglais et aux futurs clubs dans la Champions League. Donc bon...
Oui, c'est vrai que c'est une association à but non lucratif, il faut le rappeler. L'UEFA qui a un modèle de vertu depuis quelques jours, c'est assez hallucinant. Juste, je me permets, j'ai envie de pousser l'exemple hyper loin. Si demain on disait ils étaient exclus de leur championnat, les 12 là, et puis même le PSG et le Bayern, allez, ils les rejoignent, tu vois, on fait la Super League, machin et tout. Est-ce que, encore une fois, si t'enlèves l'aspect argent, l'aspect pognon, oui, ça va appauvrir les autres, etc. Et encore, si les clubs super forts envoient du pognon pour les transferts aux clubs des petits championnats, ouais, ça les alimente encore un petit peu.
Ouais,
mais il n'y aura plus de droits télé.
Comparé aux droits télé, c'est quand même le principal.
Il y aura moins de droits télé. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu oublies l'argent et que tu te mets sur une sorte de pureté du sport qu'on me vend depuis là 3 jours, le football corrompu, maintenant c'est horrible, machin et tout. Est-ce qu'au final, c'est pas mieux pour les gens qui n'aiment plus ce foot spectacle, etc., de retrouver leur championnat en un sens. C'est-à-dire que si tu enlèves le PSG de la Ligue 1, le Bayern de l'Allemagne, la Juve de l'Italie, le Real, le Marseille, l'Atlético de l'Espagne, tu as des championnats où, pour le coup, visiblement, il y a une équité sportive pour de vrai.
Ah bah, qui seront plus ouverts, oui, parce que depuis combien de temps ces clubs-là trustent les titres de champion dans leur championnat respectif, c'est sûr. Ouais, non, mais c'est sûr que. Après, est-ce que la nature a peur du vide ? Donc, je pense que de toute manière, les clubs de second rang dans ces championnats reprendront, se placeront à nouveau comme les très gros et très vite prendront aussi. Enfin, je pense que mécaniquement, tu vas juste avoir tes clubs de seconde zone qui vont se mettre à truster les titres. Mais après, en même temps, enfin, il y a un moment, je pense que de toute manière, le championnat par on rentre dans le détail du foot, mais que les championnats de foot, par leur structure en 36 journées ou en 38 journées, mécaniquement, n'avantagent que les gros clubs, parce que seuls les gros clubs peuvent être performants sur 38 journées en termes d'effectifs, en termes de niveau de jeu, en termes de... Donc, mécaniquement, les championnats, en fait, sont déjà un peu faussés par leur structure, et c'est impossible pour un petit club de remporter un championnat où ça arrive une fois tous les...
Ouais, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que là, mettons, t'as un PSG qui a un budget, un rapport de budget, je sais pas, de 1 à 100 par rapport à certains adversaires ou un truc comme ça. Si la différence entre le premier et le dernier, au lieu d'être de 1 à 100, elle est de 1 à 10, bon, bah,
oui,
déjà, ça nivelle un peu.
Il y a plus de chances, c'est sûr. Mais je suis d'accord avec toi. Sportivement, il y a plus de chances de retrouver plus d'équipes compétitives pour aller pour remporter le championnat. Après, est-ce que, au passage, c'est toujours pareil, est-ce que suspense et compétition riment forcément avec niveau de jeu? Déjà, ça, c'est pas une évidence, c'est pas une évidence absolue, en termes de qualité de jeu. Ouais, t'auras les émotions. Non, mais c'est vrai, mais après, ça, nous, on connaît bien, parce qu'on est des amateurs de sport américain, le vrai truc, ça serait l'instauration d'un salary cap et...
ouais, là, là on va trop loin. Là,
non, mais là, je sais qu'on n'y arrivera pas. Mais si tu veux vraiment de l'équité, du machin.
En fait, je poussais la comparaison parce que moi, ça m'inspirait un truc. C'est vraiment que, tu vois, j'entendais justement des supporters de foot un peu puristes, etc. Et ça me faisait penser, ayant été un peu dans le basket, aux gens qui aiment l'Euroleague face aux gens qui aiment la NBA, quoi. C'est-à-dire que moi, j'observais ça dans le basket, c'est que t'as la NBA, c'est le super spectacle, le super pognon, ça va de partout, ça saute, ça clignote, machin. Et t'as l'Euroleague, où c'est un basket différent, avec un style de jeu différent, avec des mecs qui sont bien payés pour certains, on va pas s'inquiéter pour eux, mais moins payés qu'en NBA. Et en fait, c'est pour ça que je me demandais si ça pouvait coexister. C'est-à-dire que moi, je connais des gens qui sont très fans de NBA, et puis je connais des gens qui n'en ont rien à secouer, mais qui adorent l'Euroleague. Et qui disent, mon basket, c'est plus ça. Alors évidemment, t'es fan d'Euroleague, t'es moins mainstream, etc. etc. Je peux comprendre. Mais si demain, tu vois, on avait une Ligue des Champions, entre guillemets, de puristes avec des clubs moins riches et une Super Ligue du pognon à côté, tu vois, est-ce qu'au final, les gens, ils pourraient pas naturellement faire leur choix aussi, quoi ? Rien ne les oblige à regarder l'une ou l'autre, ou les deux.
Oui, mais déjà, alors cette division, même si elle est pas aussi marquée... Mine de rien, on la retrouve un peu, je trouve, avec les compétitions européennes actuellement dans le foot, entre les amateurs des très grands clubs, du football, machin, qui vont vraiment regarder que la Champions League, et les, on va dire, quelques plus puristes qui n'hésitent pas à regarder l'Europa League, l'équivalent de notre ancienne C3, puisqu'en Europa League, tu as quand même plus souvent des clubs un peu moins hypés, on va dire, qui font des performances, qui font des parcours, des Séville, FC Séville, Grenade, enfin, des clubs d'un peu partout. Donc déjà t'as un peu ce côté-là, genre moi mon foot c'est plus celui de l'Europa League, moins clinquant que celui de la Champions League, tu l'as déjà un peu. Après,
Est-ce que t'as des gens aussi, alors je te pose la question parce que je sais pas du tout, mais qui suivent que leur équipe de championnat de France et qui s'en foutent, tu vois,
moi pour le coup sincèrement, 90% des matchs que je regarde sont ceux de la Juve. Et depuis qu'elle a été éliminée de la Champions League, j'ai pas regardé un seul match de Champions League, en fait.
D'accord.
Moi, à titre personnel, je regarderais peut-être la finale et puis c'est tout. Mais en même temps, je suis clairement... Du coup, en disant ça dans cette posture-là, de toute manière, je suis pas le public visé par la Super League. Enfin, par le public de viewers, c'est pas moi qui cherche à attirer. Mais après, le problème de la Super League, et ce qui, à mon avis, était un de leurs... par rapport à ce que tu dis, la difficulté pour faire vivre les deux modèles côte à côte, c'est que toi, dans le modèle que tu dis, finalement, ces clubs-là ont quitté leurs championnats nationaux, ce qui semble très très compliqué en foot par rapport au nombre de matchs à jouer, du coup. C'est que ces clubs-là, s'ils quittent leurs championnats nationaux, dans la Super League à l'heure actuelle, ça veut dire qu'ils vont jouer maximum 15 matchs par an.
Ah oui, c'est vrai.
Ça devient... Enfin, en termes de revenus, de machin, d'effectifs, si t'as plus que 15 matchs à jouer par an, ça devient... Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'ils... Et je pense, et c'est ce qu'ils veulent pas, c'est que... Et là où beaucoup leur reprochent en disant « Ah, vous vous rendez pas compte, si vous faites des Real Madrid, Manchester tous les ans, ça va être moins attirant. » Moi, je pense que c'est un peu entre les deux. C'est que ça reste attirant s'ils se rencontrent qu'une fois dans l'année tous les ans. Par contre, s'ils étaient plus dans leur championnat et qu'ils étaient obligés de multiplier les matchs entre eux... Et si là, par contre, le Real rencontre 4 fois dans l'année Manchester, là, ça va vraiment perdre en valeur. Et là, je pense que, par contre, c'est pas ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'ils voulaient rester dans leurs championnats nationaux, de toute façon. La Super League ne devait remplacer que la Champions League le mercredi soir et le mardi soir. Et au final, un club comme le Real, donc c'était un fonctionnement avec deux groupes de 10 en poule. Donc, tu ne rencontrais que 9 équipes en poule. Donc, de toute manière, il y avait des gros Européens que tu ne rencontrais pas dans la saison. Et donc tu gardais un peu ce côté, même si tu avais de la chance de le rencontrer l'année d'après, tu gardais un peu ce côté rareté. Et donc c'est pour ça que je crois pas trop au côté, ils peuvent vivre à côté des championnats nationaux en fait.
Ouais, non, mais oui, non, t'as totalement raison. J'avais pas l'aspect du nombre de matchs, donc voilà. Mais après, ouais, je sais pas, moi j'ai plus l'impression qu'il y a aussi un côté, oui, on veut pas qu'ils partent parce qu'en fait, ils partent avec de la valeur pour l'UEFA et la Champions League, quoi.
Oui, mais ça, de toute façon, On va pas rentrer dans le complot, mais seulement 48 heures pour annuler la Super League, des rumeurs de UEFA qui mettent de l'argent en plus. De là à dire que les gros clubs ont fait exprès de mettre la pression à l'UEFA, j'irai peut-être pas jusque-là, mais bon, en termes de timing, ça peut poser question quand même. Donc, comme tu dis, l'UEFA se rend compte qu'elle avait aussi, elle a perdu beaucoup, et que sa position de « ok, partez si vous voulez, nous on va faire le football pur et éthique », était peut-être pas si tenable que ça, en fait.
Cette posture, d'ailleurs, du football pur et éthique était quand même assez risible. Moi, j'ai beaucoup aimé les réactions, notamment de comment dire, ouais, c'est parce que c'est Savoie à posteriori, mais de dirigeants de Ligue 1, tu sais. Mm. Parce qu'il y a un an, ils ont vu un mec qui leur a fait « Moi, j'ai un milliard. » Ils ont fait « C'est pour toi !» C'est pour toi. Ils n'ont même pas vérifié si le gars était solvable et tout. Donc, c'était une décision dirigée à 1000% par l'argent. Et là, maintenant, ça multiplie les tweets. On veut construire le football du terroir. On veut être proche des gens et machin et tout. J'ai quand même ce tweet de Jean-Michel Aulas qui dit « Construire ensemble avec Nasser l'avenir d'un football où la méritocratie sportive et l'émotion ne sont pas oubliées. » Donc, je sais pas de quel Nasser il parle. Il n'a pas mis El Khalifi sur le tweet. Donc, peut-être que c'est un autre Nasser qu'on ne connaît pas. Mais Nasser et méritocratie sportive, quand tu vois le budget du PSG par rapport à ses concurrents et comment ils sont arrivés en essayant d'acheter tout ce qu'ils pouvaient, écraser le fair play financier et tout, ce tweet-là, il est quand même collector.
Bah oui, et puis quand tu vois que dans le même moment, l'UEFA passe une réforme de la Champions League pour passer de 32 à 36 équipes, avec sur les 4 nouvelles équipes, a priori une place automatique pour le 4e ou le 3e du championnat français. Donc bon, est-elle vraiment plus méritante que le champion d'ailleurs qui n'aura pas de place, et qui sont en train de dire que 2 des places vont être attribuées aux clubs européens qui ont le meilleur coefficient, parce que les clubs européens ont des points au niveau de l'UEFA, ont un coefficient de points chaque année par rapport à leur performance. Et que potentiellement, ça pourrait permettre à Manchester United, même en finissant 7e de Première Ligue, de se qualifier en Champions League l'année prochaine, par exemple. Enfin, bon, t'es là en train de te dire, oui, finalement, ça a bien servi qu'il y ait un grand méchant aidé par JP Morgan, avec tout ce que ça peut mettre dans l'imaginaire collectif qui annonce ça, pour toi, au final, passer des réformes un peu plus qui continuent de détruire. Bon.
C'est vraiment dommage que Bernard Madoff soit mort il y a une semaine ou deux, là, parce qu'il aurait vraiment fait un super financier pour le projet. Je pense qu'il l'aurait mis en tête d'affiche. Dernier point quand même qu'il faut aborder là-dessus, faut-il plaire aux jeunes ? Parce que c'est revenu beaucoup.
C'est vrai.
Donc Agnelli, le président de la Juve, a dit 40% des jeunes entre 15 et 24 ans ne trouvent aucun intérêt pour le foot. Pour ceux qui ont des enfants de 10, 15 ou 20 ans, la désaffection est plus que palpable. Les jeunes s'intéressent à autre chose. Ce triste phénomène a subi une accélération avec la pandémie. Il faut une compétition en capacité de contraster ce qu'ils reproduisent sur les plateformes digitales en transformant le réel en virtuel. Alors ça, c'est un concept.
Ouais, ça, c'était un peu bizarre.
On va prendre la question en global. Faut-il plaire aux jeunes ?
Écoute, c'est forcément une des questions, parce que même Florentino Pérez, donc le président du Real Madrid, disait que d'ici 2024, les clubs de foot seraient morts s'ils ne changeaient pas de système et de modèle. Alors bon, je pense qu'il exagère un peu, et surtout je pense que pour ne pas tuer un club de foot, t'es pas aussi obligé de dépenser des millions que tu n'as pas.
C'est une solution aussi.
Ça peut être une solution d'être un peu plus vertueux dans tes dépenses et donc ne pas vivre au-delà de tes moyens. Bon, ça, passons, ça peut être encore un autre sujet. Mais oui, la question du jeune public, elle est cruciale forcément, parce que et on va le dire clairement, c'est les futurs consommateurs. Donc il faut les attirer pour qu'ils regardent le foot, ça c'est une évidence. Après, avant de se poser la question de les attirer forcément par des plus grosses affiches et par peut-être des matchs un peu moins longs, des matchs plus dynamiques, rappelons quand même à ces présidents-là que c'est en partie à cause d'eux et de l'UEFA et des droits télé qu'on n'a plus de foot dans la plupart des pays européens. Il n'y a plus de foot gratuit sur les chaînes publiques, et que c'est aussi peut-être un des moyens pour attirer, parce que je pense, en tout cas moi je fais partie de ces générations-là qui ont aussi découvert le foot européen sur TF1 le mardi soir, le mercredi soir, gratuit, à heure de grande écoute. Et que forcément, si maintenant les jeunes ont plus ça, et pour regarder le foot, pour peu qu'en plus un de tes parents n'aiment pas le foot. Enfin, comment il fait le jeune, en fait, pour regarder ? Faut qu'il se paye lui-même à 15 ou 16 ans, faut qu'il se paye lui-même un abonnement Bein à 12 balles par mois, un abonnement SFR à 20 balles, un abonnement... Enfin, il est là aussi le nœud du problème, il y a un moment...
Mais alors, tu veux que je te dise, même pour aller plus loin, c'est pas séduire le jeune ou courir après le jeune. J'ai 35 balais, je vais pas payer pour regarder du foot, mais si tu m'en mettais devant le nez, je le regarderais peut-être, et je raccrocherais peut-être aussi. Parce que c'est pareil, je le regardais quand j'étais jeune, j'ai regardé l'Ajax gagner en 95, voilà. Non mais pareil, j'ai accroché parce que je le voyais sur ma télé, qu'on pouvait allumer ça le mercredi à regarder. Et je suis d'accord avec toi, ça marche pour les jeunes, parce qu'en effet, il faut les accrocher quand ils sont là. Et donc oui, c'est quand même assez naïf de dire « Ah ouais, mais ils sont tout le temps sur Fortnite, ils sont tout le temps sur machin. » Mais en même temps, s'il faut qu'ils aillent te chercher sans avoir un... Et c'est la politique, la NBA a bien développé ça d'ailleurs, qu'ils appellent la politique du snacking. C'est-à-dire qu'ils foutent des trucs gratos sur YouTube, en bonne quantité, pour vraiment habituer et donner envie. pour que tu ailles chercher le produit complet. Mais quand tu vois que les mecs se font striker le moindre highlight ou le moindre truc de foot en plus sur Twitter, sur machin, bah...
Non, mais c'est ça. C'est ça, c'est qu'il y a, il y a ce manque d'accessibilité et d'opportunité d'accéder au bien, j'ai envie de dire vraiment au bien foot. Et pour moi, qui est d'abord le premier nœud du problème avant même d'être plus attrayant dans la façon de proposer le foot. Enfin, je veux dire, quand il faut payer des dizaines et des dizaines d'euros par mois pour accéder à la Champions League, comme on disait, qu'en plus, si t'es jeune, t'as pas forcément les moyens de te le payer. Si t'es même jeune étudiant, t'as pas forcément les moyens de te payer 30 balles d'abonnement foot par mois. Parce que, enfin, je veux dire, t'as encore. En plus, du coup, ça suppose l'abonnement internet, qui est déjà lui. Enfin, bref, tout un truc. Donc, c'est compliqué et on pourrait même aller plus loin au-delà même de l'abonnement foot, c'est aussi le foot en stade. Les prix au stade sont exorbitants. Si tu veux aller voir des matchs de Champions League au parc, le moindre match de Ligue des Champions, même tout en haut des tribunes, si t'es pas abonné, va falloir payer. De mémoire, j'avais vu les places, tu trouvais pas de place avant 60-70 euros. Enfin, c'est donc. Pour moi, tu peux pas créer chez les jeunes générations ce côté passion si tu leur retires la capacité d'accéder au bien, en fait. Enfin, je veux dire,
tu peux pas aimer un truc que tu vois pas.
Bah voilà. Donc, leur seule espérance, c'est que vraiment les jeunes, le seul moment où ils ont un peu de foot gratuit, c'est la Coupe du Monde, et qu'ils restent tellement scotchés devant la Coupe du Monde que derrière ils fassent l'effort de continuer à suivre. Mais
je suis encore une fois, moi je suis totalement d'accord avec toi, et je pense qu'il y a même pas mal de sports qui vont finir par payer ce modèle-là. C'est-à-dire que quand tu vois le gain à court terme qui était de prendre des énormes droits télé, très bien, tu les as pris, mais la perte à long terme, c'est qu'en effet, tu te coupes d'une nouvelle génération qui découvre. Je te prends un autre exemple, la Formule 1. Tu regardais la Formule 1 sur TF1 tous les dimanches. Alors, t'aimes ou t'aimes pas, mais moi, il y a plein de gens qui découvraient la Formule 1 comme ça. Aujourd'hui, qui va payer Canal pour regarder la Formule 1?
Ah ouais, juste pour ça, à part vraiment des gros amateurs.
C'est ça.
T'as pas de nouveau public en tout cas.
C'est ça. Donc, alors, t'as un public plus âgé, les sports mécaniques, c'est peut-être un peu plus âgé, un peu plus fort pouvoir d'achat, etc. Hein. C'est pas un exemple parfait.
D'ailleurs, je crois qu'en plus, ils font des audiences pas si mal sur Canal au niveau de la Formule 1, d'ailleurs.
Ouais, mais tu vois, ils ont mis le premier Grand Prix en clair la semaine dernière, le premier de la saison en clair, et je l'ai maté, parce que c'était en clair.
Ouais.
Et je me suis dit, mince, j'avais pas maté de Formule 1 depuis 10 ans, parce que j'allais pas payer pour mater ça. Alors après, désolé, je vais pas payer un abonnement parce que j'en ai vu un. Mais, mais j'ai bien aimé. Et je me suis dit, putain, si c'était gratos, je le regarderais peut-être de temps en temps le dimanche. Mais c'est pareil avec le foot. C'est-à-dire que t'as coupé tout, à partir du moment où tous ceux qui ont découvert jeunes, ils sont passés sur ces abonnements, t'as pas la génération suivante, t'as pas le wagon suivant qui est accroché.
Ouais, donc. Et t'as même perdu une partie de ton wagon. Enfin. Moi, je sais t'as même des, en parlant avec des amis, etc., t'as même certains de mes amis, leurs parents ont arrêté même parce qu'ils savaient plus comment, enfin, ils savaient plus où se retrouver en termes d'abonnement pour regarder le foot qu'ils avaient l'habitude de regarder. Du coup, ils ont tout coupé et il y a plus de foot même chez certaines générations. Il y a eu l'effet, comment ça, faut que j'ai un triple abonnement, machin. Enfin, tu vois, ils sont même aussi coupés d'une partie de leur base qu'ils avaient pourtant largement et facilement acquis. Donc,
non, mais c'est ça. En fait, ils cherchent vraiment des faux problèmes auxquels répondre. En vrai, ils sont les coupables de plein de choses. Tu disais, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils disent, on va mourir. Je regardais les salaires, les plus gros. Hein. Je te donne le top 8. 126 millions de dollars pour Lionel Messi cette année. 117 pour Ronaldo. Neymar est à 96. Mbappé à 42. Mohamed Salah, 37. Pogba, 33. Griezmann, 34. Griezmann, 33. Gareth Bale, 28.
C'est sans les contrats pubs, ça ?
Très bonne question. C'est des chiffres Forbes.
Ouais, je sais jamais. Forbes, ils font à chaque fois les deux. Ils font le classement sans contrat et avec contrat. Mais quoi qu'il en soit, de toute manière,
C'est avec les contrats pubs.
Ok, mais de toute manière, tu vois qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Rien que là, sur la Super League, sur les 12 clubs, ça, grosso modo, tu avais les 10 clubs les plus endettés du monde avaient demandé à créer cette Super League. Parce que réellement, pour eux aussi, au-delà de vouloir proposer du foot plus attractif au peuple, grand merci, mais c'est aussi pour eux un moyen de combler les caisses et l'endettement, ou de continuer en tout cas à vivre comme des rois, parce que la nouvelle manne permettait de continuer à flamber. Donc c'est peut-être ça aussi la solution pour pas mourir en 2024, c'est revenir à quelque chose d'un peu plus normal en termes de dépenses sur le marché des transferts. Et...
Mais après, on va faire une émission psycho, mais l'homme en veut toujours plus, c'est dans sa nature.
Ouais.
Donc on est d'accord que ça va, on coupe pas la durée des matchs, on fait pas des cartons, on fait pas des buts contre double s'il est marqué dans en dehors de la surface.
Non, je pense pas que c'était ce qui était prévu. Après, cela dit, une ligue où les mecs décident tout seuls de ce qu'ils peuvent faire, peut-être qu'à long terme on y sera arrivé, mais je crois pas que c'était le but quand même. Hein. Je suis pas.
Je prends juste un exemple qui m'avait frappé, moi, parce que on en a très peu parlé, et pour le coup, là c'est passé, mais la Coupe Davis a quand même été mutilé totalement, et à mon sens d'ailleurs, c'était pour le coup, le changement est beaucoup plus violent que ce qui était prévu là, parce qu'on l'a vu, il n'y avait pas non plus un truc énorme en dehors des symboles, mais la Coupe Davis a été mutilée. Moi je trouve ça dramatique pour le coup, les fans de tennis auraient été aussi vocaux, peut-être ça aurait marché, ouais. Mais
c'est le problème d'un public un peu plus feutré,
c'est ça,
qui n'a pas l'habitude de crier au stade.
À chaque fois qu'ils crient, on leur dit de se taire, alors,
donc,
mais je trouve que Gilles Simon l'avait bien résumé, et je pense que je voulais en parler parce que c'est un bon avertissement pour tous les sports qui seraient tentés de dire faut parler aux jeunes, faut changer ceci, faut changer cela. Gilles Simon avait dit bientôt on va nous demander de jouer en 40 minutes comme une série télé au motif que les jeunes ne peuvent plus rester 3 heures devant la télé, mais le spectateur, soit tu cèdes à son caprice, soit tu l'éduques. Nous, ça fait un bon moment qu'on a choisi de céder à son caprice et ça devient le cirque à tous les niveaux. Et je trouve que c'est vraiment un truc dont devraient s'inspirer tous les sports, quoi. Mais après, comme tu l'as dit, il faut savoir rester raisonnable. Et ça, c'est bien le problème. On passe au quiz, Raphaël ?
Allez.
Petite musique. Bon, je la mets tout de suite, mais à la base, je l'avais prévu pour tout à l'heure. Le quiz, parce que je me suis dit là, pour le coup, bon, c'est un sujet un peu décalé. On n'avait pas fait de quiz la dernière fois, mais là, il y a de quoi quand même se faire plaisir. Tu es l'expert foot, donc évidemment, c'est moi qui pose les questions, je m'échauffe. Alors, j'ai de la question très technique. On va parler Ligue des Champions, évidemment, puisque c'était elle qui a été menacée et qui vient d'être sauvée royalement par l'UEFA.
Mm-hmm.
Sais-tu ce que représentent les 8 étoiles du logo de la Ligue des Champions?
Les 8 étoiles du logo de la Ligue des Champions.
Ouais, celui qu'ils ont sur la manche, en fait, il y a 8 étoiles. Déjà, c'est une première info, je le savais pas.
Ouais, non, je crois que j'avais jamais compté les étoiles, donc pour dire qu'il y a aucune chance que je trouve à quoi elles correspondent, vu que je m'en étais pas aperçu.
Alors, sache que rien n'était laissé au hasard. Il a été créé le logo en 92-93, et c'était pour signifier les 8 clubs présents en phase de groupe. Parce que cette édition 92-93, c'est celle remportée par l'OM, hein.
Ouais.
Et je sais pas si tu te rappelles de la formule qui est complètement what the fuck.
T'as deux tours de groupe, deux tours de poule, c'est ça, non?
Alors en fait, t'as des matchs à élimination directe d'abord, les huitièmes de finale
plus des poules, après ils reviennent aux poules,
voilà. Ouais. C'est ça, les 8 qualifiés font la phase de groupe. Et donc t'as deux poules de 4. Et en fait, le premier de chaque poule, ça fait la finale.
Ouais, Ah non, c'était une drôle de formule. Hein.
Voilà, le Milan-OM, il n'y avait pas eu de quart, il n'y avait pas eu de demi, c'était quand même assez direct. Petite question fitness, combien pèse la coupe aux grandes oreilles, selon toi?
Apparemment, elle est assez grande. Elle est,
Alors, elle est grande, je peux te donner la taille, elle fait 73,5 cm de haut.
Ouais, c'est une sacrée coupe, hein.
Donc elle est en argent massif.
Ouais, attends, ça doit faire quoi. Et après, ils ont l'air de pas galérer tant que ça à la soulever. Bon, en même temps, c'est des sportifs pro, alors heureusement qu'ils sont.
Non, c'est. Je vais te dire, c'est soulevable. Elle fait son poids, mais c'est soulevable quand même.
10 kilos ?
Un peu moins.
7.
Ouais, elle fait 7,5. Donc c'est déjà pas mal. Question musicale, évidemment, on l'a entendu, l'hymne de la Ligue des Champions est un arrangement, sache-le, de l'hymne appelé Zadok the Priest, qui a été composé pour le couronnement de George II en 1727. Quel était le compositeur original?
Beethoven?
Non. Alors, il est connu de nom, après, je saurais pas te chanter. C'était Friedrich Händel. C'était Händel.
Ah, ok. D'accord.
Qui a composé l'original. Alors, il faut le dire, on en a parlé avant l'émission, les paroles sont d'une pauvreté assez navrante, je dois le dire. Et elles sont, il faut le savoir, alors vous voyez, on l'entend. Chers auditeurs, saviez-vous que l'hymne de la Ligue des Champions est en 3 langues? C'est-à-dire qu'il y a une phrase en français, une phrase en allemand, une phrase en anglais, une phrase en allemand, une phrase en allemand, une phrase en français, une phrase en anglais. Je vous le donne dans l'ordre. Ça fait français, allemand, anglais, français, allemand, anglais, allemand, allemand, français, anglais. Voilà. Et alors, je vous l'ai dit en français, la traduction, les paroles sont nullissimes. Ça fait « les maîtres, les meilleurs, les grandes équipes, les champions, une grande réunion, un grand événement sportif, l'événement principal ». Ils sont les meilleurs, ils sont les meilleurs, ils sont les champions, les maîtres, les meilleurs, les grandes équipes, les champions. Voilà.
Ah ouais.
X2 pour le refrain.
Ok, c'est super. Ouais, c'est...
Ah oui, oui. Et donc vraiment, l'extrait que vous entendez notamment à la fin, c'est en allemand français, ça fait « Die Meister, die Besten » en allemand, et vous entendez « les grandes équipes, the champions » à la fin. Voilà, donc c'est en trilingue.
Bah c'est, oui.
Mais vraiment, c'est vrai que quand tu l'écoutes comme ça, t'as peine à distinguer, en fait.
Oui, de toute façon, personne n'écoute vraiment, juste c'est la musique en tant que telle, et puis les 3-4 secondes avant d'entendre. Ouais.
Alors, question Coupe européenne. Quelle équipe a gagné la dernière édition de la Coupe des Coupes ? La C2 défunte.
La C2 défunte.
Je te donne un indice, c'est italien.
Lazio.
C'est pas la Lazio.
Ouais.
En 99, c'est contre Majorque.
Ouais.
Parlons de compétitions dissidentes, parce qu'il y a eu. Alors, la Coupe d'Europe des clubs champions a été créée en 55. Pour la petite histoire d'ailleurs, c'est des. Comment dire à la base, l'UEFA ne voulait pas gérer le truc. Elle avait laissé des mecs de l'équipe commencer à gérer. Et à la toute fin, l'UEFA a dit non, finalement, on préférerait gérer. C'est ce que dit la fiche Wikipédia. Donc, il y a eu une compétition dissidente de 1958 à 1971, avec notamment 3 victoires de Barcelone et 2 titres pour Leeds United. Comment s'appelle cette compétition ? J'espère que tu le sais, parce que la Juve joue la dernière finale.
Mais alors, j'allais dire, j'ai la coupe des foires des villes en tête, mais...
C'est ça, c'est la coupe des villes de foires.
Ouais, voilà.
La Juventus a perdu contre Leeds dans la dernière finale.
Ouais.
Petite
question. Alors, je crois qu'après, ils ont fusionné, je me demande, hein, je me trompe peut-être, mais il me semblait qu'ils avaient fusionné le palmarès de la coupe des villes des foires avec celui de la C2 ou un truc comme ça, enfin...
Ah,
tu me demandes si à un moment il n'y a pas eu une fusion, mais je me trompe peut-être.
C'est tout à fait possible. Coupe des villes de foire, oui, tu as raison, parce que l'édition 67, l'UEFA reprend en main la compétition et la relance par la Coupe UEFA. En fait, en 71, c'est devenu la Coupe UEFA.
Ouais, c'est ça.
Donc, je disais. Ah oui, petite question argent. Quand même, on a parlé de droits télé, de Ligue des Champions, etc. Combien le PSG a-t-il touché pour son parcours de l'an dernier, qui l'a mené en finale ?
Ah, c'est une... Combien il a pu toucher pour ça ?
Droit télé compris.
Droit télé compris, est-ce qu'il aurait pas touché autour de... Beaucoup, hein, je pense. Enfin... Le vainqueur, pour moi, le vainqueur, il touchait autour de 5 millions...
Alors là, je parle du coup le total.
Ouais, le total.
Ils ont des sous pour la finale,
pour chaque tour, pour les droits de télé. Ouais. Si tu fais autour de 100 millions.
Ils ont eu 134 millions d'euros. Dernière question, on va parler club français quand même. L'OM. Oulala. Que je fasse ce lapsus. L'OM. Est la seule équipe française qui a gagné la C1, mais au total, combien de finales ont joué les clubs français ?
Alors, tu rajoutes...
Celles gagnées plus les perdues.
Ouais, tu rajoutes la perdue de Monaco, la perdue de l'OM contre Belgrade, la perdue de Paris contre le Bayern, donc ça te fait 3 finales de plus. Après, t'as celle du stade de Reims, au début des années 50. Reims, ils en perdent 2. Saint-Etienne, 1 contre Munich. Reims, donc ça fait 3, du coup ça doit faire 6 finales perdues.
Bien joué, parfait. Paris, Monaco, Marseille, Saint-Etienne et Reims deux fois.
Voilà.
Très bien joué, félicitations. On termine, Raphaël, du coup avec notre réponse habituelle à notre faut-il du jour. Donc c'était faut-il jouer au foot entre riches. Je l'ai formulé comme ça.
Ou faut-il continuer à jouer au foot entre riches.
Exactement.
Idéalement non, pour la beauté du sport, ouvrons un peu, mais
Après, moi, encore une fois, je suis biaisé parce que je suis beaucoup la NFL, qui est probablement quand même la ligue la plus cynique du monde. Raphaël, je pense que tu seras d'accord avec moi, parce que là, on parlait, tu vois, oui, des fois, ils redonnent de l'argent aux petits clubs avec des transferts et tout ça. La NFL, ils s'en foutent. Ils ont un vivier qui est gratos, c'est les facs. ils attendent que les mecs ils soient formés. Ils vont les chercher. Tu vois, ils n'ont même pas à payer. Des facs où parfois les entraîneurs sont payés avec de l'argent public. Tu vois, genre, niveau vertu, on est à zéro. Hein,
ouais, le seul truc qu'on peut leur accorder par rapport au soccer, on va dire ça comme ça, c'est qu'en NFL, les droits télé sont répartis équitablement entre les 32 équipes, quand bien c'est même vrai. L'équipe la moins flashy de la ligue fait 15 fois moins d'audience que les Dallas Cowboys. Parce que dans un système équivalent, Dallas, pour expliquer aux gens, Dallas est l'équipe qui fait le plus de vues aux États-Unis en termes de foot américain. Vu la différence qu'il y a avec d'autres équipes de la Ligue, Dallas pourrait dire « Attendez, moi je veux une plus grosse part des droits télé parce que c'est moi qui ramène... » Donc, ils ont à minima cette vertu-là, il faut leur reconnaître.
Alors, du coup, toi, faut-il jouer au foot entre riches? Non. Moi, je te dirais, pareil, non, dans un monde idéal. Et dans un monde réaliste, où peut-être qu'ils vont faire ça dans 5 ou 10 ans, ou même dans 5 semaines, vu les tergiversations. Moi, je te dirais non. Après, je pense que la nature a horreur du vide. Tu l'as déjà dit sur un autre truc. Mais moi, je pense qu'elle a aussi horreur du vide, au sens où s'ils se barrent et qu'ils font leur truc plein de pognon... Il y a des gens qui se retrouveront dans un football plus traditionnel, dans d'autres trucs, et au final, il n'y aura pas mort d'homme non plus, quoi. Là où ça m'embête vraiment, c'est pour les supporters des équipes concernées, parce qu'eux, ils n'ont vraiment pas le choix. C'est-à-dire qu'ils sont... Non, mais tu vois, ils sont mis dans une position qui est horrible, pour le coup.
Oui, oui, c'est vrai.
D'ailleurs, je t'ai pas demandé, toi, supporter de la Juve. Tu serais full Super League, et puis tant pis pour les pauvres.
Moi, je suis le club, hein.
D'accord. Non, mais, ouais, non, mais c'est une vraie...
Non, mais honnêtement, je...
Tu vois, on parlait avec des supporters de l'OM qui disaient qu'est-ce qu'on fait s'ils y vont, quoi.
Ouais, et je crois qu'en vrai, je suivrai d'autant plus le club que divorcer, on va dire, avec de l'UFA, c'est divorcer avec un gros salaud, tu vois. J'aurais vraiment un vrai quai de conscience si les équipes partaient d'une ligue qui était assez vertueuse, où c'était éthique, où justement tous les droits étaient répartis équitablement, Là, je me dirais, merde, quand même. Là, divorcer de mafieux pareil, bon, au final,
oui,
je me remettrais éthiquement, quoi.
Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir plus traumatisant. Moi, encore une fois, ouais, ça m'embête plus pour eux, mais après, encore une fois, je pense que les gens retrouveront quelque chose qui leur plaît d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, il y a une image d'Épinal du foot qui est belle, hein, mais qui est peut-être quand même déjà entamée depuis un moment. Et après, les gens y recréent des choses. Évidemment, il y aurait moins d'argent, il y aurait moins de choses, mais bon, ça peut. Et après, tu vois, ce que tu dis, par contre, quand tu dis, moi, j'irai avec la Super League parce que j'aime bien mon équipe et tout. Par contre, moi, j'accepte, tu vois, je trouve qu'il faut pas juger. C'est-à-dire que j'ai beaucoup entendu, ouais, mais c'est pas pour un même public, c'est pour un public de touristes qui va consommer ça comme ça, machin, machin. Mais en fait, on a le droit d'avoir envie de regarder du sport sans se prendre la tête aussi.
Oui, clairement.
Donc, je veux dire, s'il y a un truc pour des gens qui ont envie de regarder comme ça, et puis s'il y a un truc pour des gens plus hardcore et plus fans et tout ça, les deux ont le droit d'exister aussi, quoi. Donc,
Tu sais, t'as toujours, au moment de la Coupe du Monde, t'as toujours des gens qui se plaignent du fait que les matchs sont regardés par tout le monde, que tout le monde parle de foot, du coup, que les footix. Bon, que veux-tu ? Toujours déjà.
C'est toujours la contradiction de dire oui, mon sport il est le plus populaire, je veux qu'il soit plus populaire, mais en fait, ah bah non, il y a plein de gens qui viennent qui connaissent pas, ils sont pas assez puristes pour moi, quoi. Donc après, bon, encore une fois, moi du coup, encore une fois, dans un monde idéal, je vais dire non aussi. Petit jingle et on boucle ça. Écoutez bien les paroles du coup. Ça va, tu l'avais du coup cette fois ?
Ouais, enfin, je suis même pas sûr de tous les reconnaître.
C'est pas facile,
hein.
Die Meister, die Besten, les grandes équipes de Champions. Et on notera du coup que dans le refrain, il y a deux phrases en allemand sur quatre. C'est pour ça que le Bayern gagne à chaque fois. les faut-il des auditeurs ? Alors, on n'en a pas en stock, mais c'est l'occasion de vous dire qu'on a déjà le thème de la prochaine émission. On peut le dire, on va parler expatriation.
Tout à fait.
On va parler expatriation, on va parler voyage. Et on aura donc une invitée avec nous. Les recommandations, Raphaël, c'est le moment de nous dire ce que tu recommandes pour cette semaine.
Alors, pas très original, mais du coup, comme on disait sur le thème du sport, je reste sur Affaires Sensibles, donc l'émission de France Inter diffusée tous les jours de la semaine, et notamment en fait les émissions, ils ont fait toute une semaine thématisée sur le sport, la semaine du 22 mars. Que vous pouvez encore retrouver avec 5 épisodes, donc autour du, ils ont appelé ça sport sensible parce que c'est autour de cas un peu particuliers dans l'histoire du sport. Donc vous en avez un sur Oscar Pistorius, vous en avez un sur l'Afrique du Sud 95, l'équipe de rugby dont une partie des joueurs sont tombés gravement malades, très fortement probablement à cause du dopage de l'époque. Et il y en a une super sur Maradona, dernier roi de Naples, que je vous conseille fortement parce qu'en plus Fabrice Drouel, pour ceux qui ne le savent pas, est un grand amateur de Serie A et de l'équipe d'Italie, donc on sent le passionné, on sent que ça lui parle quand il en parle, enfin voilà, on sent que vraiment ça lui fait plaisir. Donc voilà, toute cette semaine-là thématisée autour du sport, donc du 22 mars au 25 mars, Affaires Sensibles.
Alors je me permets de rajouter que tu as oublié sur celui qui était mon préféré, celui sur Simone Mathieu.
Il est très bien, ouais. C'est vrai aussi
qui a donné son nom là au plus récent cours de Roland Garros. Mmh. J'avoue que j'avais aucune idée de qui c'était à ce moment-là et je l'ai découverte. C'est une femme donc qui a eu un très grand rôle dans la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout en étant une tenniswoman ouais, exceptionnelle,
t'as raison, ouais,
avec un caractère exceptionnel. Moi, je l'ai trouvé incroyable cette émission. Mais ouais, très très bonne recommandation. Moi, je me permets, j'en ai deux. Alors une qui est une série, mais alors pas récente du tout, je crois que c'est de 2001, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est au début des années 2000, c'est Six Feet Under. Alors, évidemment, il y a plein de gens qui connaissent. Moi, je ne l'avais jamais vu. Donc, comme il est jamais trop tard et qu'on a tellement d'offres de séries récemment, voilà, il est jamais trop tard pour en découvrir certaines. C'est sur OCS, Six Feet Under. Donc, alors, il faut avoir le moral. Je préviens d'avance, moi, je fais des petites pauses. À binge-watcher, ça peut être un peu pesant en période de confinement. Parce qu'évidemment, ça parle beaucoup de la mort. Hein, ça parle du travail d'une famille de croque-morts à Los Angeles. Avec évidemment des intrigues personnelles, mais ça touche un thème qui est évidemment sensible, mais qui est aussi passionnant. Il y a Michael C. Hall, qu'on a vu plus tard dans Dexter, notamment, qui là joue le rôle d'un des fils qui reprend l'affaire. En fait, je peux spoiler ça, le père meurt dans le premier épisode et il laisse donc à ses fils la gestion de sa maison funéraire. Et c'est une série qui est vraiment très touchante. Moi, je trouve que c'est vraiment très touchant. C'est bien écrit, c'est bien foutu, les rôles sont intéressants. J'ai pas tout à fait fini, donc voilà, je suis à début fin de la saison 5, là, milieu de la saison 5, donc j'arrive à la fin. Mais c'est vraiment sublime. Je me permets une deuxième reco. Alors là, c'est plus particulier. Parce que, il faut le dire, j'ai un peu honte, alors je vais te dire un truc quand même Raphaël, j'ai un peu honte parce que j'ai donné des cours de radio ces derniers temps et j'ai insisté auprès de mes élèves à quel point il fallait écrire ses chroniques et là j'ai juste 2-3 notes alors que ce film aurait mérité une chronique de 3 minutes superbement écrite et particulièrement chiadée. C'est un film qui s'appelle Permis de tuer qui est sorti en 2016 si je ne dis pas de bêtises avec Steven Seagal. Alors là vous vous dites oui Steven Seagal.
En plus c'est le Seagal tardif 2016. Hein.
C'est le Steven Seagal tardif en surpoids particulièrement creepy hein, je dirais même répugnant avec les femmes. Donc je vous lis le synopsis. John Harmon, agent détaché de l'antidrogue, doit trouver le lieu et la date d'une réunion qui scellera une alliance entre Daesh et un cartel mexicain. Cette alliance ayant pour objectif principal de faire passer plus facilement des terroristes sur le sol américain, accompagné de deux experts, Harmon va devoir traquer les protagonistes de cette menace jusqu'en Europe. Alors, je vais vous le dire, c'est probablement le pire film que j'ai vu de toute ma vie.
Ah ouais, ouais,
l'intrigue n'a aucun sens. Alors, parce que ça a l'air con dans le synopsis, mais ça l'est encore plus dans le film. C'est incompréhensible pourquoi Daesh et le cartel mexicain veulent jouer ensemble. Non, c'est incompréhensible. Les acteurs sont nullissimes. Les répliques, c'est limite raciste par moments, c'est malaisant. Quoi. Il y en a quand même une qui est terrible parce qu'il y a un mec qui est vraiment... c'est du cliché, hein, c'est du full cliché. Donc il y en a un qui est en full cliché de terroriste et Steven le regarde et fait « T'es pas mexicain, toi. T'es arabe. » Tu vois, le truc horrible. Donc c'est voilà. La réalisation des bastons est épileptique. C'est-à-dire que comme Steven est en surpoids et qu'il ne peut plus bouger, c'est la caméra qui bouge.
Ah oui, d'accord.
Donc il lève le bras, il y a 14 mouvements de caméra d'avant en arrière et il y a un mec qui tombe. Voilà. Et c'est répugnant à un moment parce que Steven Seagal, si tu veux, il ne signe que si les femmes sont folles de lui dans les films.
Oui, bah quitte à faire. Hein.
Donc, alors attends, pour te dire, c'est tellement répugnant qu'il y a une actrice dans le film qui s'appelle Gemma Dalender, puisque, alors c'est, attention, c'est avec des bouts de ficelle, il n'y a que deux acteurs autour de Steven, il est envoyé là, il doit faire tomber à la fois Daesh et le cartel mexicain, mais la CIA lui a dit t'y vas tout seul Coco, il n'y a pas de problème. Et donc, il y a une sublime actrice avec lui qui, évidemment, ils partent en mission, si tu veux, et là, elle débarque dans sa chambre en nuisette dentelle, boxer et tout. Donc, tu te dis bien que quand elle a fait sa valise, elle s'est dit bon, je vais prendre des dessous sympas. On sait jamais en mission secrète pour faire tomber un cartel.
Avec Steven Seagal en plus, on voilà. sait jamais.
Et alors, pour te dire, c'est répugnant à l'écran parce qu'elle se retrouve avec un Steven en méga surpoids, immonde, avec un bouc qui a 30 ans de retard, bon, l'horreur. Donc elle est là en lingerie, en train de se faire ploter et tout, c'est immonde. Et je te jure, sur IMDb, c'est marqué. En fait, la nana a réclamé une doublure corps. C'est-à-dire que c'est même pas l'actrice en fait. Tellement c'est répugnant.
Je crois qu'il va falloir qu'on en fasse un channel random sur les mauvais films. Hein.
Ah ouais,
je pense que.
Mais je pense que pour le coup, celui-là, c'est même pas un nanar.
Oui,
c'est même pas
c'est juste, ouais, c'est, terrible,
c'est, c'est juste nul, quoi. C'est vraiment absolument nul. Autant Seagal a fait des trucs qui sont un peu nanardesques,
oui.
un peu rigolos.
Ah bah, en haute mer, là.
Ah, piège en haute mer, ouais. Bon. Après, ce que j'adore avec Steven, et c'est encore le cas dans ce film, c'est que quand il y a le grand méchant à la fin, il n'y a pas un combat où il prend des coups et tout. Il lui latte la gueule direct.
Oui, pas de temps à perdre. Non, mais
ah non, il y a zéro temps à perdre. Et donc là, j'adore, c'est que le mec pointe son gun sur Steven, il le prend, il le retourne, il tire, et ça tue le mec. Tu vois. Voilà, c'est tout, c'est la scène de combat finale. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est une... et je pense même qu'il y a une erreur de montage qui est terrible.
Non, c'est possible.
Ouais. C'est que le film a l'air terminé, et en fait, ils remettent une des scènes qui était au milieu, et tu comprends pas pourquoi. Et il y a le générique qui part après. ça n'a aucun sens. Et bon, pour te dire, c'est que il y a un bêtisier pendant le générique et même le bêtisier est 100% malaise.
Ça donne pas envie hein, quand même. Hein,
tu ris même pas pendant le bêtisier.
Tu le vends pas très très bien. Hein.
Non, alors par contre pour te dire, j'étais vraiment plié en deux. C'était devant les commentaires sur le site IMDb. Les commentaires de gens sont incroyables. C'est vraiment genre, c'est très très drôle. Voilà, donc c'était ma recommandation merdique. Évidemment, n'en prenez pas compte. Regardez plutôt Six Feet Under.
C'est pas le même trip, hein, clairement.
C'est pas le même trip, en effet. C'est pas le même trip. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 19 de Channel Random. Merci beaucoup, Raphaël.
Ben, merci à toi.
On se retrouve donc très bientôt pour parler expatriation. J'étais en train de me dire dans ma tête qu'il faudrait qu'on refasse bière aussi parce que... ça marche toujours bien et je découvre, je suis en train d'étendre ma palette donc ça me dérange pas d'en refaire une.
Oh bah écoute, hein, on pourra en refaire un troisième hein.
pour fêter la réouverture des terrasses ou un truc comme ça, tu sais. Comme
oui,
ça, tu
voilà. Quelle bière prendre en terrasse quelle bière prendre au retour des terrasses
limite, on se l'enregistre en terrasse, tu vois. On prend deux pieds de micro, un enregistreur et on fait ça. Voilà pour donc ce dernier Channel Random. N'hésitez pas à nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, tout ça, laisser des étoiles, des commentaires, des trucs comme ça. Twitter et Facebook, c'est @crandompod. On vous remercie beaucoup et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.